Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour mesdames, messieurs. Donc, nous allons reprendre aujourd'hui le fil de notre introduction où nous avons fait la description et la critique des représentations que l'érudition occidentale a pu se faire de la transmission de l'Avesta depuis l'édition de Geltner en 1896 jusqu'à l'enquête paléographique de Hoffmann dont les dernières conclusions sont parues en 1989. Je reviens rapidement sur la représentation de Hoffmann, c'est-à-dire une transmission qui s'établit en trois étages, hein, l'Avesta arachosien, premier temps du pouvoir achéménide, pour le situer dans le temps, l'archétype sassanide, qui aurait été mis par écrit, selon Hoffmann, sous le règne de Shabur II, donc à un moment donné du IIIe siècle de notre ère. L'opération a bien sûr été accompagnée de l'invention d'un système d'écriture, ce qui est surtout l'acquis technique important de l'hypothèse de Hoffmann. Enfin, un Avesta Ausgabe, je vous rappelle que Ausgabe, c'est le mot allemand qui désigne l'édition, et par là, Hoffmann se réfère à l'Avesta tel qu'il a été édité par Geltner, l'Avesta édition, et qu'il conçoit comme le débris du livre sassanide. Bon, je vous ai fait remarquer lors de mon exposé, mais je vais le reprendre ici pour le continuer, que la représentation de Hoffmann est extrêmement dépendante de celle de Bailey. Toutefois, Hoffmann a voulu apporter un certain nombre de précisions et je vous faisais remarquer que le paradoxe était que ces précisions étaient toutes révélatrices des anomalies du schéma de Bailey et du schéma repris par Hoffmann. L'hypothèse des Stamm... excusez-moi, je commence par l'ordre chronologique normal, donc par l'Avesta arachosien. Les raisons que Hoffmann a de postuler un Avesta arachosien transmis en Perse au premier temps du pouvoir achéménide sont des raisons hétérogènes qui, techniquement, ne sont pas recevables par un historien. Je vous avais renvoyé à mon collègue Pierre Briand, qui confirmerait ce détail. Je n'y reviens pas. Maintenant, nous pouvons continuer la critique de l'hypothèse de Hoffmann. Le défaut aussi de l'hypothèse de l'Avesta arachosien est que cette hypothèse met Hoffmann en contradiction avec lui-même. Je m'explique. Hoffmann a fait remarquer une chose tout à fait juste, il est le seul à l'avoir fait, mais ceux qui lisent des textes avec moi au séminaire savent très bien ce que cela représente dans la réalité. C'est que l'Avesta que nous possédons, la graphie de l'Avesta que nous possédons, ne traduit pas la phonétique originale de ceux qui ont rédigé les textes en avestique deux millénaires auparavant. Ce que la mise par écrit à l'époque sassanide implique, c'est que ce que l'on met par écrit, c'est ce qu'on entend, bien entendu, dans la récitation liturgique des textes à l'époque sassanide. Au fil des siècles, les modifications inconscientes se sont manifestées. Hein. Nous n'avons pas la phonétique originale de la langue avestique. Ce que nous avons, c'est la phonétique de la récitation liturgique de l'époque sassanide. Et il n'est pas toujours facile, croyez-moi, de départager les traits originaux et les traits de l'élocution liturgique. Nous n'avons une connaissance phonétique de l'avestique que très approximative. Or, l'hypothèse arachosienne implique que Hoffmann va faire l'hypothèse, et ses élèves aussi le feront, n'est-ce pas, faire l'hypothèse de modifications phonétiques qui ne sont celles ni de la langue originale, ni celles de l'élocution liturgique sassanide, mais celle de la prétendue tradition arachosienne du VIe siècle avant notre ère. Ainsi, va se constituer, dans les travaux de l'école de Hoffmann, toute une batterie de postulats phonétiques censés provoquer par le traitement arakosien des textes. C'est le grand reproche que l'on peut faire à cette hypothèse. J'ajouterai un autre reproche plus essentiel, plus vague, mais plus essentiel. Que pouvait bien être l'Avesta au VIe siècle avant notre ère? Quel texte pouvait bien le constituer? Geltner au moins a répondu à la question. Hein. Pour son Avesta pré-alexandrin, il considérait qu'il s'agissait des Gatha de Zarathoustra et des Yasht, et des vieilles poésies des Yasht. Hoffmann ne précisera quel texte il attribue à l'Avesta arakosien. Il ne le fera pas. C'est la question qui, personnellement, m'a mis le plus mal à l'aise avec l'hypothèse de Hoffmann. Deuxième niveau, celui de l'archétype sassanide mis par écrit à l'aide d'une écriture inventée ad hoc sous le règne de Shabour II au IIe siècle. Au IIIe siècle de notre ère, excusez-moi. La critique que l'on peut adresser à Hoffmann est plus décisive et plus simple. Simplement, Hoffmann a été victime d'un document mal évalué. Il devait naturellement, il part du principe élémentaire et évident que l'écriture avestique a été mise au point d'après le dernier niveau d'évolution de l'écriture moyen-perse. Donc l'écriture avestique traduit les caractéristiques de l'écriture moyen-perse dans son dernier niveau de fonctionnement. Mais quand ce dernier niveau de développement de l'écriture moyen-perse est-elle atteinte? À quelle époque? Eh bien, Hoffmann croit pouvoir attribuer ces dernières modifications de la forme des lettres au IIIe siècle parce que c'est de cette époque que l'on datait un sarcophage découvert à Istanbul, sarcophage chrétien, où avait été inhumé un perse probablement. Et l'épitaphe, faite en l'écriture moyen-perse usuelle, présente les traits du dernier développement de l'écriture sassanide. Mais nous savons aujourd'hui, cela a été démontré une dizaine d'années plus tard, que ce sarcophage est en réalité extrêmement récent. Il remonte à une époque qui doit être le IXe siècle de notre ère. Donc, on ne peut s'étonner de la forme de l'écriture moyen-perse que présente ce document, mais ceci anéantit entièrement la possibilité de situer la mise par écrit de l'Avesta et l'invention de l'écriture destinée à le faire sous le règne de Shabour II. En réalité, aujourd'hui, les toutes dernières années, vous savez, il semble se constituer un certain consensus de la part de mes collègues de Paris, Philippe Heuss et Franz Grenet, avec Alberto Cantera et aussi Carlo Ceretti, la mise par écrit de l'Avesta remonte très vraisemblablement au règne de Khosrow Ier, donc 200 ans plus tard que le pensait Hoffmann, mais ainsi que l'avait déjà postulé Bailey. Il faudrait donc simplement se réaligner sur les positions de Bailey. J'ajouterai un détail tout de même. Hein. J'ajouterai un petit détail. On ne peut pas être absolument sûr que le règne de Khosrow Ier et le VIe siècle de notre ère soient le moment charnière de la mise par écrit. La possibilité graphique est ouverte dès ce moment-là. Je préfère m'exprimer ainsi. C'est à partir du règne de Khosrow Ier que la possibilité technique de mettre l'Avesta par écrit existe. Mais que la possibilité ait été exploitée, c'est une autre histoire. Ceux qui étaient présents, certains d'entre vous étaient présents au colloque de Salamanque du mois de septembre, ont pu constater que un certain scepticisme continue à se manifester. De ma part, certainement, mais aussi d'autres personnes ont évoqué la possibilité que l'Avesta sassanide n'ait jamais été mis par écrit entièrement. mais seulement une partie peut-être a été mise par écrit. Ce qui a été mis par écrit, incontestablement, à un certain moment, c'est la Vesta que nous possédons, c'est la Vesta Oscarbée, puisque nous l'avons, et puisque nous l'avons par le truchement de manuscrits. Mais la Vesta sassanide, c'est une autre question. Alors, le problème des Stammhandschriften, ça la manque encore, pour y revenir, c'est une autre question qui a été beaucoup été débattue indirectement, n'est-ce pas? C'est que, les Stammhandschriften, je vous disais, Hoffmann les postule parce que les manuscrits présentent des fautes communes. Or, le principe philologique des fautes communes, c'est bien sûr que ces fautes sont attribuables au modèle commun de tous les manuscrits que nous possédons. Donc, une Stammhandschrift, un archétype manuscrit pour tous les manuscrits que nous possédons. Est-il véritablement sûr que la typologie des fautes communes que nous trouvons dans nos manuscrits relève de ce principe, soit due à un modèle commun, ou y a-t-il d'autres explications possibles? Je vous avoue que le problème, pour l'instant, me paraît prématuré. Je ne vois pas le moyen de le résoudre, parce que, contrairement à certains sceptiques, je sais aussi très bien d'expérience qu'il y a exactement l'inverse des fautes communes dans nos manuscrits, c'est-à-dire ce que Geltner lui refusait massivement, mais dont il maintenait tout de même la possibilité, parce qu'il avait remarqué des choses, bien entendu, c'est que parfois affleurent, malgré tout, dans la masse de nos manuscrits, des divergences de recension, des traces de double recension. Et si une double recension existe, si parfois, nous avons le même texte, le même phrasé textuel, disait Geltner. Oui, pas toujours. Il y a de petites exceptions, et des exceptions qui semblent montrer que nos classes de manuscrits ne se réfèrent pas toujours au même texte. C'est très faible également, mais un jour, il faudra peser tout ça. Ça, c'est programmatique, n'est-ce pas? Il faudra mettre en balance les fautes communes et les traces de double recension. Ça, je n'en ferai pas un trait des leçons de cette année, car ici, il nous faut attendre. Donc, voilà une critique. Alors, je vous ai fait la critique de la représentation d'Hoffmann, qui représente incontestablement l'état le plus achevé de ce que l'érudition occidentale a bien pu reconstituer de l'histoire de la transmission avestique. Et j'avais, à l'époque où la représentation que Hoffmann se faisait des choses était encore la mienne, c'était il y a, je crois que c'était à partir de l'année 95 ou 96, j'avais présenté ici même un cours, c'était mon troisième, que j'avais intitulé un peu par esprit de provocation « Les Mazdéens ont-ils eu un livre sacré ?» Et c'est en rédigeant, préparant ce cours, que je me suis rendu compte qu'il m'a paru que l'hypothèse de Hoffmann présentait les faiblesses que je viens de vous exposer. Dès lors, en tenant compte de ces faiblesses, il faut restituer une autre histoire de la transmission, essayer de mettre au point un autre schéma. Et il m'est apparu en même temps que c'était possible, que c'était non seulement possible, mais que c'était recommandable. D'une manière curieuse, en relisant soigneusement les réflexions fondamentales, c'est le premier homme qui a eu sous les yeux l'ensemble de notre documentation sur le texte avestique, en lisant ces fameux prolégoména de Geltner, deux phrases montrent, si on les assemble, que Geltner avait perçu quelque chose dont il n'a pas tiré parti. C'est qu'en réalité, l'Avesta, nous n'avons pas de manuscrit qui donne l'Avesta tout entier. Jamais, jamais, n'est-ce pas? On peut, d'une certaine façon, classer les manuscrits. On peut les classer de bien des façons, selon bien des critères. Mais un des critères pourrait être celui-ci. C'est que certains manuscrits donnent le Yasna, le Visprat ou le Videvdat. ensemble, ou bien simplement le Yasna séparément, le Videvdat séparément. Mais les trois livres sont associés. Vous avez eu la liste, hein, je crois, des livres, je vous l'avais donné lors du dernier cours. Ou alors, simplement, ils associent les Yasht et le Corda Avesta. Alors, la conclusion que l'on peut tirer de cet assemblage des livres dans les manuscrits que nous possédons, c'est que l'Avesta n'est pas un livre, certes, comme l'a dit Geltner, mais il n'est pas non plus, comme Geltner l'a dit, une nébuleuse textuelle, un Schriften complexe. C'est quelque chose d'intermédiaire. En réalité, pour le définir de manière exacte, c'est l'assemblage de deux liturgies. Le Yasna, le Bisprat et le Videvdat associés constituent une longue liturgie unitaire, un cursus rituel de longue durée. C'est le grand sacrifice solennel. Ce sont les textes qui sont récités lors d'un grand sacrifice solennel. Et d'autre part, les Yasht et le Corda Avesta sont un recueil de liturgies séparées. Elles sont soit dédiées, c'est le livre des Yasht, c'est sa définition même, ce sont les hymnes sacrificiels aux divinités qui donnent leur nom au jour du mois. Ces textes sont évidemment utilisés au jour donné pour telle ou telle divinité. Et le Corda Avesta est un recueil de liturgies très, très diverses, saisonnières, privées, etc. Donc, la juxtaposition de deux liturgies. Alors, l'idée que cela nous donne, n'est-ce pas, c'est qu'il ne s'agit pas du débris de l'Avesta sassanide, mais qu'il s'agit d'une compilation de textes mis au point de manière concertée, de manière systématique, avec le souci de donner à une grande cérémonie sacrificielle, je parle du Yasna, hein, puisqu'il est unitaire, c'est lui qui va nous retenir, bien sûr, dans le but de donner à cette cérémonie longue, solennelle, unique, un récitatif. Alors, j'ai proposé de définir l'assemblage du Yasna, du Visprat et du Videvdat comme le récitatif de la liturgie longue et l'anthologie des Yasht et du Corda Avesta comme le recueil des liturgies brèves. Ce n'est pas commode. Dans le discours écrit, destiné à des spécialistes, c'est très précis et ça passe. Entre nous, c'est très difficile, lorsqu'on fait cours, d'utiliser ces expressions très longues. Je me référerai donc à cette grande cérémonie unitaire par le mot Yasna, hein, simplement. Quand je dirai Yasna, vous savez ce que j'ai, ce à quoi je pense. C'est la façon la plus simple de procéder par voie orale. Bien. Or, dans cette idée que cette mise au point, cette compilation de textes dans un but liturgique était une opération distincte de la collection générale des textes dans l'Avesta sassanide, n'était pas une idée neuve. Elle était tout simplement oubliée. Elle était oubliée à cause des noms qui figurent dans le tableau que vous avez. Geltner, Andreas, Belle, Hoffmann. C'est une idée qui avait été exprimée en 1881 par l'un des premiers éditeurs de l'Avesta, Friedrich Spiegel, qui avait tenté une édition de l'Avesta fondée sur les manuscrits de la bibliothèque de Munich, qui ne représente évidemment pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle son édition est aujourd'hui simplement une curiosité scientifique. Mais Spiegel avait défini le texte que nous possédons, le texte des manuscrits que nous possédons, comme un Gebetbuch, non pas comme l'Avesta, mais un Gebetbuch qui en aurait été extrait. Livre de prière, dit-il dans son allemand. Cette idée-là était réapparue brièvement plusieurs dizaines d'années plus tard, en 1938, dans le livre Die Religion in Irans, de Henrik Samuel Nyberg. Nyberg a été un des seuls savants, je m'y arrête un instant, il reprend cette idée du Gebetbuch de Spiegel, mais Nyberg n'a pas n'a pas exposé de manière longue et systématique sa conception de la transmission avestique. Il a simplement adopté cette idée de Gebe et de Bourg, mais il était un de ceux, c'est très clair, qui ont perçu le premier, avant Bailey, quelques années avant Bailey, 1938, l'importance de la transmission orale du texte. C'est un de ceux qui pensent que le texte a été transmis oralement durant des siècles avant d'être mis par écrit. Et il pense d'ailleurs aussi, c'est important, que cette mise par écrit s'est faite immédiatement dans l'alphabet que nous possédons. En ce sens, c'est un prédécesseur de Bailey, et je crois le premier de cette génération, parce que la vieille génération, celle de Bartholomé, il en est autrement, le premier de cette génération qui est fait la critique implicite de la représentation des choses que s'était faite Andreas. Enfin, c'est le premier à abandonner l'idée de la théorie d'Andreas, sans le dire, mais cette conception de la transmission est évidemment incompatible avec Andreas. Bien, alors, Spiegel, 1881, Nuberg, 1938, et l'idée avait été rappelée dans un article qui n'est paru qu'en l'an 2000, mais dont je possédais le manuscrit en 1995, un petit article d'Antonio Panaino qui présente cette question dans une brève note et qui met en opposition, question de terminologie, ça vaut la peine, n'est-ce pas, dans la tradition avestique, le thésaurus sassanide, c'est-à-dire corpus général des textes, et ce qu'il appelle le missel, c'est-à-dire l'avesta que nous possédons. Je n'aime pas ces appellations. Pourquoi ? Parce que, si je ne m'abuse, un missel ne représente pas un cursus liturgique systématique et complet. C'est un recueil de textes à choisir, utilisables, lors d'une cérémonie liturgique, bien sûr. Mais notre yasna, ça n'est pas ça. On ne choisit pas ces textes, n'est-ce pas ? Il s'impose dans la structure de la cérémonie. Et on récite tous ces textes dans l'ordre qui leur est attribué de manière impeccable, et d'ailleurs parfois avec des répétitions qui sont mentionnées dans les manuscrits. Nous avons donc affaire à un corpus systématique. Ce n'est pas un missel, ça. Pour ça, je n'aime pas cette appellation. Il faut toujours se méfier des appellations analogiques, comme je ne manque jamais de vous le faire remarquer. Alors, thésaurus sassanide, vous voyez qu'il nous échappe entièrement. Le Dinkart le décrit, mais souvenons-nous de Bailey qui avait eu la prudence de faire, de mentionner dans son titre le fait essentiel. Zoroastrian Problems, les problèmes zoroastriens, in the 9th century books, dans les livres du 9e siècle de notre ère. Ces textes qui nous présentent le thésaurus sassanide, le Dinkart, sont des textes du 9e siècle de notre ère. C'est-à-dire qu'ils sont à peine plus anciens que les manuscrits avestiques de notre Ausgabe de 2 siècles. Ce n'est pas énorme. Donc, aussi, puisque c'est l'actualité scientifique, je rappellerai aussi que le colloque de Salamanque, on a beaucoup entendu au colloque de Salamanque le mot canon pour désigner l'Avesta sassanide. Lorsqu'un mot est si souvent répété, c'est une sonnette d'alarme. Cela signifie qu'il est temps aussi, c'est programmatique, prématuré, mais il est temps aussi de faire la critique de la notion de canon en ce qui concerne l'Avesta. Ben, qu'a été l'Avesta sassanide ? Nous le savons aussi peu que Geltner savait ce qu'il y avait dans l'Avesta alexandrin, pré-alexandrin ou Hoffmann dans l'Avesta arachosien. Le contenu de cet Avesta sassanide, il nous échappe entièrement. Ce que nous possédons, ce sont les 2 anciennes collections liturgiques. Alors, le schéma que cela implique est le suivant. C'est-à-dire, nous avons une tradition qui amène à notre Ausgabe, notre Avesta Ausgabe. Et cette tradition remonte à on ne sait quelle date. nous ne pouvons distinguer aucun jalon sur son histoire, rien. Seulement remarquer qu'à partir du VIe siècle de notre ère, sa mise par écrit était possible. Était possible. Quand a-t-elle eu lieu entre 1020, la date du plus ancien manuscrit que nous ayons en mémoire, et le VIe siècle de notre ère, nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Et l'histoire précédant la mise par écrit, nous n'en connaissons rien non plus. Alors, quatrième programme, n'est-ce pas, quatrième programme pour la recherche à venir. Il faudra un jour se soucier de ce problème. L'Avesta, notre collection avestique, notre petite compilation de nos manuscrits, c'est quelque chose qui est entièrement en marge de l'histoire. C'est en marge. Il n'y a aucun événement historique ne peut être rapporté au sujet de cette collection. Nous n'en savons rien. L'histoire du texte avestique est une histoire en soi et séparée apparemment de tout. Pas de traces de l'Avesta dans les inscriptions achéménides, quoique certains savants, comme Protsoctor Cherveux de Harvard, croient avoir relevé dans les inscriptions achéménides des citations avestiques. Ce n'est pas le cas. Non seulement je suis en désaccord, mais je crois être en mesure de pouvoir dire non. Et si vous lisez l'article où Cherveux s'est exprimé, vous verrez que rien n'est strictement comparable au formulaire de l'Avesta. Récemment aussi, Albert de Jong a fait remarquer, lors de conférences qu'il a faites ici, à mon invitation, qu'aucune mention de l'Avesta n'apparaissait non plus à l'époque moyen-perse, c'est-à-dire au premier millénaire de notre ère. Rien. C'est une histoire, l'histoire de ce texte échappe à l'histoire tout court. Hein, et là, le programme, je crois que c'est un programme qui pourrait bientôt entrer, je veux dire, dans la phase des réalisations concrètes, et peut-être qu'un jour proche, je vous annoncerai un petit colloque qui se ferait ici, où j'inviterai quelques collègues à débattre de ce problème. Hein, l'histoire tout court et l'histoire de l'Avesta. Est-il possible d'établir des points de rencontre, entre ces choses ou pas. Donc voilà, ça fait beaucoup pour le programme, mais je vais à présent... mon article du journal asiatique de 1998, où j'ai exprimé cette représentation que j'avais de l'histoire de l'Avesta, présente il y a plus de 10 ans, hein, c'est un article qui est vieux de 11 ans, présente des défauts. Il présente des défauts parce que simplement, lorsque l'on défend une idée nouvelle, on ne voit pas parfaitement toutes ses implications. Et je voudrais faire ma propre critique. Je ne remets pas en cause le schéma qui est aujourd'hui presque unanimement accepté. Je ne remets pas en cause le schéma, mais ce sont justement les éléments de datation qui sont en cause. Car contrairement à Spiegel et à Panaino, chez Nuberg, ça n'est pas très clair, je pensais que la compilation liturgique des textes de Laos Gabbé est une opération ancienne. Ce n'est pas une opération sassanide, comme le pensait Spiegel et comme le pense Panaino. Je pense que c'est une opération très ancienne, peut-être d'époque achéménide, quoique je ne vois pas des moyens d'établir un rapport avec l'histoire des achéménides, mais certainement peut-être à une date que l'on pourrait situer quelque part entre l'Avesta aracosien de Hoffmann et l'Avesta préalexandrin de Geltner. C'est une histoire. Mais j'avais pour cela des raisons qui sont soit fausses, soit qui sont insuffisantes. D'abord, le mot « yasna ». Il m'a semblé que le mot « yasna », sacrifice, dans l'avestique, désignait le livre, parfois. Donc, le texte se mentionne lui-même, en quelque sorte, n'est-ce pas, en langue avestique, ce qui est un gage d'ancienneté. Ce n'est pas une datation absolue, mais c'est tout de même une datation relative. N'est-ce pas. La collection liturgique aurait reçu son nom à l'époque où on composait encore des textes en langue avestique. Voilà ce que j'ai défendu. C'est quelques attestations où le mot yasna semblait désigner le livre que nous possédons ont été réexaminées par Almuth Hinze en 2004 Et Almuth Hinzer arrive à la conclusion qu'il ne s'agit pas de notre livre Yasna, mais d'un de ses fragments qui s'intitule Yasna Haptankhaiti, nous y reviendrons, ce qui signifie le Yasna en sept chapitres, et qui est un texte inclus dans le Yasna, mais beaucoup plus ancien, dont la désignation se fait parfois de manière elliptique, c'est-à-dire qu'on se réfère au Yasna Haptankhaiti en laissant tomber le mot Haptankhaiti. C'est incontestable, ça se pratique, n'est-ce pas ? Il y a des attestations du mot Yasna qui désignent effectivement le Yasna Haptankhaiti. Bon. Donc, cet argument-là ne peut plus servir. Je ne suis pas entièrement convaincu, n'est-ce pas ? Mais tout au moins, est-ce une alternative dont nous devons tenir compte ? Et cela invalide, bien entendu, l'argument. Je ne peux plus considérer que l'utilisation faite par le mot Yasna dans l'Avesta est un argument sûr de datation relative. Je dois abandonner cette idée. Bon, alors, deuxième argument dont je disposais pour faire de la compilation une opération ancienne, c'est qu'il y a, j'avais découvert cela lors du même cours auquel je me suis référé d'il y a un peu plus de 10 ans ici au Collège de France, je m'étais aperçu que tout au début de la récitation du Yasna, dans le Yasna 1, le premier chapitre, nous trouvions en fait une énumération de textes. Cela signifie que le prêtre en charge de la récitation mentionne les textes qu'il va utiliser. Or, la liste de textes que nous trouvons, il s'agit d'un article, si vous vouliez vous y référer, Journal asiatique de 1996. Or, cette liste de textes, nous ne parvenons pas toujours à identifier les textes. Mais certains, oui. En tout cas, ça, du point de vue de l'importance pour l'histoire de la transmission avestique, il me semblait donc que nous avions affaire à une compilation textuelle qui n'était pas exactement celle du Yasna que nous possédons, mais qui la préfigurait en quelque sorte. Et j'avais proposé de considérer, de désigner cette liste du Yasna 1 comme le proto-Yasna A. Bon, le Visprat. Nous avons une variante au Yasna 1, dans le Visprat 1. Il procède aussi à une énumération textuelle, celle que vous avez d'ailleurs reçue, je pense, en tableau, mais ce n'est pas pour l'examiner à présent que je vous l'ai transmise, c'est pour ce qui va suivre. Donc, l'énumération du Visprat 1 est un peu différente, elle est différente. Alors, j'avais proposé de définir la liste textuelle du Visprat 1 comme le proto-Yasna B. Dès que l'on dit A ou B, vous voyez l'hypothèse que je formulais, c'était que ces deux listes étaient le témoignage de l'histoire de la constitution progressive du Yasna. Alors, vous voyez, une histoire linéaire où un proto-Yasna A, une compilation liturgico-textuelle donnée, définie, n'est-ce pas, avait été remaniée une première fois pour donner le proto-Yasna B, puis remaniée une seconde fois pour constituer alors probablement le Yasna que nous possédons. Cela est anéanti, hein, parce que Alberto Cantera, dans l'article qui est mentionné au-dessus de votre tableau, a établi qu'il ne s'agissait pas de l'étape d'une genèse de la constitution progressive de la collection textuelle, mais qu'il s'agissait au contraire d'une variante. Donc d'une variante qui était utilisée en certaines occasions, mais qui ne compromettait pas, n'est-ce pas, l'existence de la liste du Yasna 1. Ce n'était pas le remaniement, c'était une variante possible et ponctuelle de la récitation liturgique de la cérémonie. La base est incontestable. Je me range entièrement à cette analyse parce que vous savez que lorsque je vous dis, vous savez que le Yasna est le cœur de la cérémonie. Hein, parfois, cérémonie est plus longue parce que l'on intercale les textes du Visprat, et parfois elle est encore plus longue parce que l'on intercale dans la cérémonie les textes du Videvdat. Alors, ça, c'est évidemment c'est une construction. En fait, c'est un rite que nous connaissons sous trois. Il y a même une quatrième forme, mais extrêmement rare. Donc, c'est une sorte de cérémonie qui peut être élargie à des textes d'une autre origine. Eh bien, ce dont témoigne la liste textuelle du Visprat 1, selon Cantera, c'est d'une cérémonie où l'on a intercalé dans le texte du Yasna, non pas le Visprat et le Videvdat, mais le texte des Yasht. Cette pratique est tombée en désuétude, mais on ne voit pas de raison pour laquelle cette pratique n'aurait pas existé aussi avec le titre des Yasht. Donc, les éléments d'une histoire, d'une chronologie relative avec les listes textuelles que nous possédons dans l'Avesta lui-même ne peut plus être retenu. Ce dont témoigne l'Avesta, ce n'est pas d'une diachronie, c'est d'une synchronie, hein, avec toutes les variantes que cette cérémonie pouvait bien avoir eu. Bon, ça c'est le deuxième reproche que je pourrais faire à mon hypothèse d'alors. Troisième critique, hein, je vais y finir. Troisième critique, vous savez que les générations de philologues qui se sont occupées d'analyser l'Avesta, d'écrire l'histoire de la religion mazdéenne, zoroastrienne, avaient pour habitude de beaucoup pratiquer des arguments, je vais dire, issus en quelque sorte d'histoire de crise. On a entendu aussi à Salamanque, pour y revenir, l'un d'entre nous défendre la méthode qui consisterait à tout de même situer dans l'histoire des conceptions zoroastriennes et telles qu'elles se reflètent dans la constitution des textes, l'influence de certains moments de crise, de polémique, voire de schisme religieux, etc. C'est une conception qui tend à être abandonnée depuis une dizaine d'années à la suite du livre « Traditions of the Meiji » d'Albert de Jong et paru à peu près à la même époque, à la fin des années 90, le « Dualism in Transformation » de Shaul Shaked. Ce sont deux personnes que vous connaissez bien, sont venues parler ici, et qui ont combattu cette idée que toutes les petites divergences, contradictions que l'on observe dans les textes sur des points de doctrine religieuse seraient dues à des controverses, à des polémiques, à des crises, n'est-ce pas, dans l'histoire de la doctrine mazdéenne. Mais qu'il fallait y voir, au contraire, une diversité parfaitement naturelle des conceptions. Je crois que tout au moins ça, les deux opinions relèvent bien entendu du postulat, mais la position de De Jong et de Shaked me satisfait assez personnellement, parce que je crois que ce fut un usage beaucoup trop pratiqué que d'avoir cette vision un peu cataclysmique des choses dans le développement du mazdéisme, qui ne se serait transformé que après des crises et des polémiques violentes internes à la doctrine. C'est peut-être une perspective beaucoup plus naturelle et en tout cas qu'il nous faut en tout cas envisager à titre d'alternative de travail. Or, dans mon article de 98, j'étais encore marqué, n'est-ce pas, par cette pratique, et j'avais postulé pour expliquer le passage d'un proto-yasna 1 à un proto-yasna B, puis au yasna que nous possédons, n'est-ce pas, j'avais voulu voir dans ces remaniements le reflet de problèmes de doctrine religieuse, par exemple. J'avais fait place à de possibles conflits entre la religion du clergé mage et celle des rois achéménides, diffusion contestée du culte de la déesse Anahita sur Artaxerxès II. Mais ces faits-là m'avaient procuré évidemment une série de points de repère historiques, hein, des points de repère dans l'histoire tout court, justement. Or, aujourd'hui que je ne veux plus utiliser ce type d'argument, je suis cela me sépare de l'histoire tout court. Hein. Je suis obligé de poser crûment le problème de la situation de l'Avesta dans l'histoire et de partir du principe que nous n'avons aucun point de repère historique dans l'état actuel des choses. Bon, tout cela, ça fait beaucoup de progrès. On a beaucoup parlé programme. Je vous ai dit que tout était prématuré, que c'était des champs de recherche qui, inévitablement, allaient s'ouvrir dans les prochaines années. Mais en ce qui me concerne, moi, et tout de suite, pour les cours qui vont venir, je vais vous dire, nous avons un autre programme. Personne ne s'est jamais posé la question du sens de la liturgie du yasna. Bien non, bien sûr, puisque le yasna serait le produit hasardeux, une épave hasardeuse, le reste, les fragments sauvés d'un livre, comme nous dit Bellet. Donc, l'assemblage du yasna aurait relevé purement et simplement du hasard. Et l'utilisation liturgique des textes, c'est l'opinion qui était ouvertement défendue, c'est que ces textes avaient reçu une utilisation liturgique parce que l'on avait conscience qu'ils étaient le reste d'une littérature sacrée. Leur but initial n'était pas liturgique, mais leur fonction liturgique serait née tardivement de la catastrophe même qui les avait triés. Or, maintenant, nous ne pouvons plus dire cela. Si cette compilation est systématique et concertée, il faut lui attribuer un sens. Il faut attribuer un sens à cette collection. Il faut essayer d'en exhumer le sens. Le sens, attention, bien sûr, petite précaution, vous voyez bien où je veux en venir, à deux niveaux. À deux niveaux. Il faut toujours bien savoir à quel niveau nous nous situons. Il y a deux niveaux. Les textes utilisés, nous ne connaissons pas leur utilisation initiale. Nous ne connaissons que leur utilisation à l'intérieur de la compilation du yasna. Bien sûr, nous pouvons faire un essai d'investigation qui relève en quelque sorte d'une archéologie textuelle. En quoi une partie du yasna, comme texte isolé, à quoi correspond-elle du point de vue liturgique ? En tant que telle, elle-même, comme texte séparé, ça c'est le premier niveau. C'est la question qui concerne chaque texte utilisé dans le yasna. Mais alors il y a le deuxième niveau. C'est ce qu'il y avait dans la tête du compilateur du yasna. Quel sens l'arrangeur du yasna a-t-il voulu donner à sa liturgie et aux textes qui doivent l'accompagner et aux récitatifs qui l'accompagnent. Alors, cette investigation, je vous le ferai remarquer, nous l'avons menée déjà depuis 2 ans. Nous avons tenté de voir quel était, comment nous pouvions avoir une représentation conceptuelle du début du yasna. Nous avons pris les textes comme ils venaient. Nous sommes entrés dans le sacrifice masdéen avec les textes tels qu'ils se présentent à nous. Nous avons fait cet essai. Je vais vous donner rapidement un petit exposé sur le début du yasna. Cette année-ci, dans les cours, dans les semaines qui vont suivre, nous nous préoccuperons de la sortie du sacrifice après avoir analysé l'entrée durant, je crois, 2 ans. Oui, une petite précaution. Bien sûr, le yasna est une cérémonie qui est encore pratiquée aujourd'hui. Ce n'est pas cela qui est en cause. Et à ce titre, comment la cérémonie d'aujourd'hui est-elle conçue, est-elle considérée par les Mazdéens d'aujourd'hui, par les Parsis indiens ou les Zoroastriens d'Iran? Nous savons bien, il suffit de s'informer, il suffit de le leur demander. Cela va de soi. Et il y a un petit résumé très commode qui nous fait une description du yasna. C'est un cahier de Studia Iranica paru en 1991 et qui est dû à la collaboration d'un haut dignitaire religieux parsi, le Dastour Firouz Kotwal, et d'un ritualiste américain qui s'appelle James Boyd. Et de leur collaboration est sortie une très succincte et très intéressante description de la cérémonie du yasna. Ce n'est pas une critique de ces deux hommes que je vais faire en vous disant qu'elle est très décevante sur le plan intellectuel. Ça a l'air tout à fait sans intérêt. Ça a l'air tout à fait sans intérêt, tellement les choses sont relativement plates dans cette présentation. Généralement, c'est pour dire sa dévotion à la divinité ou lui demander protection. Donc, ça s'arrête là, l'interprétation du rite. Bien entendu, il faut se mettre à la place d'un haut dignitaire parsi d'aujourd'hui, vous vous rendez bien compte qu'il ne peut pas, d'ailleurs il ne sait pas, il ne peut pas se faire du rite qu'il pratique la conception que pouvait s'en faire un mage du temps de Darius. Hein. Les siècles ont passé, les années ont passé. Les modifications inconscientes sont inexorables. Dès lors, notre information, ce n'est pas à un prêtre d'aujourd'hui que nous pouvons la demander. Il faut essayer de la demander aux textes eux-mêmes. La description que je vais vous faire de ce rite du Yasna, ce n'est pas celle de Kotwal et Boyd, quoiqu'il est parfois intéressant d'aller voir ce qu'ils disent. Je vous donnerai parfois une référence à leurs interprétations. Mais nous devons tenter de l'arracher au texte même. Alors, bon, donc la cérémonie du Yasna, comment commence-t-elle? Son introduction va du chapitre 1, bien entendu, au chapitre 27, strophe 12. Donc, la fin du préliminaire de la cérémonie est interne au chapitre 27. La première opération dont nous pouvons aisément restituer le nom, et il y a un équivalent indien, et ce que j'appellerai, mais c'est une restitution. Dès lors, je mettrai le signe de restitution. Ce qu'on appelle en védique une nivide. Dès le Rig Veda, cette opération est mentionnée. C'est la toute première opération sacrificielle possible. C'est annoncer le sacrifice, l'annoncer, simplement, on l'annonce. Oui, une petite question que vous allez poser tout de suite et je vous répondrai que je n'en sais rien, mais on en reparlera. Qui parle? Bon. La deuxième opération, chapitre 1, chapitre 2, deuxième opération, c'est introduire dans l'ère sacrificielle le Basman et la Zautra. Le Basman. C'est un terme que je ne peux comparer, peux pas comparer à un fait indien, mais on a des représentations figurées assez claires et aujourd'hui encore, on voit très bien ce que c'est. C'est un faisceau de baguettes. C'est simplement un faisceau de baguettes que les prêtres tiennent en main et, selon les opérations rituelles, déplient ou replient. Un peu comme un éventail, si vous voulez. C'est pas une jonchée, hein. C'est pas une jonchée. C'est pour cela que je ne peux pas comparer le Barsman, quoi qu'il y ait un petit semblant d'homonymie, avec le Barish indien qui est la jonchée d'herbe rituelle devant l'autel. C'est pas ça. C'est la baguette que le prêtre, c'est ce faisceau de baguettes que les prêtres tiennent en main et qui est apparemment la première caractéristique du rite. Lorsqu'il commence. La zautra, c'est le liquide pour faire des libations. Là, la comparaison est claire. Hotra, dans le rite védique. La nature de ce liquide, c'est probablement du beurre fondu à époque ancienne. Aujourd'hui, c'est de l'huile que l'on achète au supermarché, m'ont dit les Zoroastriens d'Iran. N'est-ce pas? Donc, c'est un liquide. Mais probablement, comme dans le rite védique, à l'origine, il s'agit de beurre fondu. Bien, ensuite, les opérations continuent, les litanies anticipatives commencent. Et la troisième opération spécifique, nous la trouvons au chapitre 8. Chapitre 8 qui correspond à l'arrivée du collège sacerdotal sur l'ère sacrificielle. Les prêtres envahissent l'ère sacrificielle, ils entrent sur l'ère sacrificielle. C'est ce que nous raconte le chapitre 8. Les chapitres 9 à 11 sont représentés par un long texte d'allure archaïque qui porte en moyen perse le nom de Holmstone, nous en avons beaucoup parlé, l'éloge de Hauma, c'est-à-dire la plante liqueur sacrificielle indien Soma. Il semble que ce texte, en tant que tel, hein, comme texte séparé, était le récitatif d'un vieux rite de pressurage de la plante pour en obtenir le colostrum, hein, qui constituera la liqueur sacrée. Inséré dans le yasna, c'est autre chose. Il n'y a pas de pressurage, donc on pratiquera les opérations avec un haoma qui a été préparé à l'avance, hors rite, dans les préliminaires. Donc, cela est rendu extrêmement sensible par le fait que dans le rite d'aujourd'hui, aucune opération n'a lieu durant la récitation du Holmstone. La récitation est nue. Il n'y a pas de geste ni de pratique durant la récitation de ce vieux rite, probablement de pressurage. Il est interrompu vers la fin par l'investiture du collège des officiants. Aujourd'hui, il y a deux prêtres, lorsque l'on pratique le rituel du yasna, mais le texte avestique mentionne de façon très explicite, de manière incontestable, la présence de 8 officiants dont nous connaissons le nom et dont le président, en quelque sorte le prêtre principal, porte le même nom que dans le rite védique indien, c'est le zautar, c'est-à-dire le prêtre qui est en charge de la zautra, donc de faire les puiseilles de liquide, et qui, en védique, s'appelle le Hotar, qui est le chef de la cérémonie. Ce qui ne traduit pas une hiérarchie définitive et ferme, n'est-ce pas ? Lors de l'organisation d'un sacrifice à l'autre, ce rôle peut être dévolu à un autre prêtre, ainsi de suite. Il ne faut pas avoir cette représentation des choses, parce que vous verrez qu'elle pourrait être parfois déformante, qu'il s'agit d'un chef installé. Non, hein ? C'est une pure distribution des rôles qui est ponctuelle, n'est-ce pas ? On verra très bien ça aussi dans le rite védique où tel personnage important est installé dans le collège sacrificiel avec un rôle tout à fait subalterne. Cela n'a pas d'importance, cela ne signifie rien sur l'organisation hiérarchique du corps sacerdotal. Comme d'ailleurs je vous ai mis en garde, ceci est une fonction sacrificielle. Ce n'est pas une fonction sacerdotale. Hein. Prêtre est une fonction sociale, mais il ne faut pas traduire Haudar par prêtre. N'est-ce pas ? Il est saisissant que dans certains livres de vulgarisation dus à des spécialistes, pourtant, parfois, l'on présente Zarathustra comme ayant été un prêtre parce que quelque part il est dit qu'il est Zautar. Non, ben, Zautar n'est pas un prêtre. C'est quelqu'un qui est investi d'une fonction dans un sacrifice donné. Il est bien sûr nécessairement de la classe sacerdotale. Mais il y a une fonction sociale qui est celle de prêtre, c'est Atravan, en avestique, il y a une fonction sacrificielle qui est Zautar ou autre chose. Après avoir été investi, donc le Zautar va boire pour la deuxième fois du Haouba. L'avale réellement. Aujourd'hui, c'est là, il n'y a plus qu'une seule absorption, mais ce n'est pas la chose importante. Après cette seconde absorption de Haouma, vient la zone moyenne avestique que j'ai analysée avec vous, et qui est centrée autour de la déclaration fravarané, c'est-à-dire la déclaration du choix rituel. Le choix rituel qui consiste à faire le choix de sa cible sacrificielle. Donc le yasna révèle ici, au fond, sa cible. Et c'est clairement le grand dieu Ahura Mazda. C'est le long sacrifice solennel, c'est tout à fait naturel, c'est une évidence, de ne pas considérer cela comme une surprise. Et cette déclaration de choix rituel n'est en rien un libre choix, n'est-ce pas ? C'est évidemment le choix, toujours figé, de consacrer ce long sacrifice au grand dieu du système de panthéon mazdéen, Dieu qui est Ahura Mazda. Puisque le prêtre déclare, nous l'avons vu, Fravarané, je fais le choix d'être quelqu'un dont le sacrifice s'adresse à Mazda. Après avoir fait cette déclaration officielle, le Zautar, ou les prêtres, selon la distribution, peuvent commencer à parler aux dieux, hein, peuvent s'adresser aux dieux. Et effectivement, avec le Yasna 14, c'est le début du discours aux dieux. Les prêtres parlent directement aux dieux, ce qu'ils ne font pas avant. Et il procède dans le Yasna 15, 15e chapitre, à quelque chose que l'on appellerait en védique l'ahava. L'ahava, c'est-à-dire l'invitation des dieux au sacrifice. On pourrait dire, c'est effectivement, on pourrait restituer le terme vestique, hein, azawa, c'est-à-dire l'invitation au sacrifice. Ça se fait sous forme d'énumération des noms, et on déclare sacrifier à tel dieu, dans un ordre hiérarchique particulier. Cette liste litanique occupe les chapitres 16 à 18. 16 à 18. C'est important, nous l'avons aussi scruté, ce moment, n'est-ce pas, parce que c'est ici que le compilateur du Yasna simplement livre la constitution de son panthéon. On sait comment il conçoit l'univers divin, hein, quels sont les dieux qu'il admet. Hein. Bien sûr, le sacrifice, c'est d'abord pour Ahuramazda, c'est le premier nom, puis viennent les autres, hein, dans un ordre qui n'est pas... un ordre qui n'est pas arbitraire, un ordre qui est certainement déterminable. Chapitre 19 à 21, qui paraît très bizarre, je ne vais pas y revenir, ce serait trop long, mais on voit très bien en quoi cela consiste. Les chapitres 19 à 21 sont là pour affirmer deux choses. D'abord, pour le collège sacerdotal, c'est justifier la composition de son panthéon. Il justifie la composition de son panthéon, primauté d'Ahuramazda, puis de certains dieux sur d'autres, etc. Donc il y a une justification. Deuxième motivation pour avoir introduit ces chapitres dans le Yasna, c'est expliquer que le sacrifice est quelque chose d'important, d'archétypique en réalité, et quelque chose qui remonte au tout premier temps du monde, à l'époque où il n'existait, même les dieux, certains dieux, la plupart d'entre eux, n'avaient pas encore été créés. Donc la volonté des hommes de sacrifier se manifeste au premier temps de la cosmogonie. C'est bien sûr pour le responsable du Yasna, du Lantar, expliquer l'importance de ce qu'il fait. Hein, l'importance de ce qu'il fait. Vous voyez, ces préliminaires sont longs, et ils doivent nous dire tout cela. Chapitre 22 à 27-12, c'est la consécration des offrandes, et tout spécialement celle de Haouma, mais cette fois, ce Haouma est littéralement pressuré, il est préparé pendant la récitation de ces chapitres, raison pour laquelle ce secteur du texte est intitulé Haumast, c'est-à-dire Haouma, et puis le moment où nous sommes, l'opération, c'est l'avisti. Avisti, c'est-à-dire la consécration des offrandes, et tout spécialement la consécration de Haouma. Et l'an dernier, si vous vous souvenez, nous avions remarqué que c'est à ce moment-ci que la notion de Fravashi commençait à jouer un rôle. Donc la Fravashi, ça correspond à la déclaration du choix rituel au Fravarané. Les deux mots sont construits sur la même racine, c'est l'acte de faire la déclaration du choix rituel, pas que le terme Fravashi, et comme la comparaison indo-iranienne nous le suggère, la présence de ces Fravashi à ce moment du rite est justifiée par le fait que les officiants du sacrifice prennent place dans ce que le rituel brahmanique appelle le pravara, et que l'on pourrait représenter, que l'on pourrait traduire en avestique sous la forme fravara, c'est-à-dire dans la lignée continue, des sacrifiants qui ont opéré depuis le tout premier sacrifice, où le dieu Akni était lui-même le Hotar, le tout premier sacrifice qui était accompli jusqu'à celui d'aujourd'hui. Mais dans le système religieux masdéen, ce n'est pas le sacrifice d'aujourd'hui, c'est aussi la préfiguration du sacrifice ultime, celui de la fin des temps. Donc, en invoquant tous les Fravashi de ceux qui l'ont précédé et les Fravashi de ceux qui lui succéderont, le Avatar prend place dans le Pravara, c'est-à-dire prend rang dans la lignée infinie, pas de ceux qui rendront le sacrifice depuis le tout premier sacrifice jusqu'au dernier, celui de la fin des temps. Ce qui nous laisse d'ailleurs, je vous faisais remarquer l'idée que le sacrifice était permanent et qu'une cérémonie finie devait immédiatement recommencer pour former une éternité sacrificielle, à la maille éternelle de l'activité sacrificielle des hommes dans le temps. Voilà le début du sacrifice tel que nous avons tenté de le décrire lors des derniers cours. Alors maintenant, bien oui, nous sommes à pied d'œuvre, hein, nous allons voir comment l'on sort du sacrifice, voir ce qui se passe dans la fin du sacrifice. Il faudra d'abord conserver soigneusement le tableau fait à l'aide du livre de Kantera, car il faudra d'abord décrire brièvement le cœur du sacrifice, à savoir la récitation de l'Aveste ancien, qui est le noyau du rite, n'est-ce pas, avant de revenir au texte avestique récent ponctue la fin de la cérémonie. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.